C'est la suite. Depuis la semaine dernière, donc je lis Exode chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, « Ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. » J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qui marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Pharaons et des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Je reprends dans le verset 26. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Nous étudions la vie de Moïse, et ici c'est certainement le moment le plus dramatique, le plus mémorable de sa vie. Qu'est-ce qui rend ce moment si dramatique? Eh bien, c'est l'impasse dans laquelle se trouve le peuple. En verset 2, nous apprenons qu'ils sont campés près de la mer. Donc, un côté, il y a la mer, et puis le verset 3, Pharaon a compris, voilà ce qu'il se dit, il dit le désert les enferme. En fait, le désert dans cette région du monde, ce n'est pas le sable plat à perte de vue. Le désert, c'est très montagneux, rocailleux. Et donc, on peut imaginer, ils sont enfermés dans le désert et puis ils arrivent. Et aujourd'hui, vous pouvez même aller sur Google Earth et voir, on ne sait pas exactement où ce passage de la mer Rouge a eu lieu, mais il y a plusieurs possibilités, notamment qui correspondent à tous ces critères. Et là, on voit vraiment à quel point ils auraient pu être enfermés, encerclés dans l'impasse la plus totale. Comment s'en sortir? C'est la grande question. Comment sortir de cette impasse? Nous connaissons tous le sentiment d'être dans une impasse dans la vie, encerclé de nos problèmes sans une solution. Peut-être une situation financière, peut-être une situation de couple, peut-être une épreuve, peut-être une dépression, peut-être une situation de bâtiment, de local qui est trop petit. Comment sortir? C'est l'impasse. Et en fait, pendant tout le reste de l'Ancien Testament, tout le reste de l'histoire du peuple juif, ce peuple est constamment appelé à penser à ce moment-là, au passage de la mer Rouge. Et nous aussi, dans nos impasses, nous sommes appelés à penser à ce moment, parce que c'est le cas typique, le cas classique de délivrance, la délivrance de Dieu. Alors pour sortir de l'impasse et connaître la délivrance de Dieu, voilà ce que nous allons voir ce matin. Pour sortir de l'impasse et connaître la délivrance de Dieu, il faut premièrement apprendre à paniquer, ensuite apprendre à ne rien faire, ensuite apprendre à marcher et enfin apprendre à chanter et danser. Ça, c'est un peu le plan, vous pouvez suivre ce matin. Apprendre à paniquer, apprendre à ne rien faire, apprendre à marcher, apprendre à chanter. C'est comme ça que s'opère la délivrance de Dieu, la sortie de l'impasse. Tout d'abord, il faut apprendre à paniquer. Ici, on voit qu'il y a une bonne panique et une mauvaise panique. C'est pour ça qu'il faut apprendre à paniquer. La bonne panique, c'est verset 10. Pharaon approché, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors cette panique-là, c'est normal, c'est bien. Comme vous voyez foncer sur vous la cavalerie la plus puissante du monde, les 600 chars d'élite et beaucoup d'autres chars, tous ayant des combattants, et que vous êtes accolés à la mer, là, vous pouvez paniquer, vous pouvez crier à l'Éternel. On se rappelle, ce n'est pas une armée contre une autre armée, c'est une armée contre un groupe, ce groupe de peuples formé de familles, des enfants, des troupeaux. Ils ont dû partir à la hâte, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser, de réfléchir plus que ça. Alors, voilà, c'est panique à bord. Et c'est normal, parce que justement cette impasse, c'est exactement la situation dans laquelle Dieu voulait qu'ils se retrouvent. C'est lui qui les avait guidés jusque-là. On se souvient déjà, la colonne de nuée les avait guidés. C'est lui qui a dit dans les premiers versets, c'est là que vous camperez, près de la mer. C'est là que je vous veux. Alors pourquoi pourquoi Dieu les avait guidés dans cette impasse? Eh bien, c'est pour qu'ils puissent apprendre à sentir leur impuissance totale, leur incapacité totale. Du coup, j'avais un doute sur ce mot paniquer, c'est un peu fort. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire, mais le dictionnaire, première définition, avoir très peur, perdre ses moyens. Eh bien, c'est ce que le peuple avait besoin d'apprendre, perdre des moyens humains, perdre ses moyens humains. Et en fait, vous n'irez pas loin avec Dieu, vous, si vous ne faites pas ce constat-là, si vous n'apprenez pas à perdre vos moyens. Le signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie, c'est de nous conduire à ce moment d'angoisse, ce moment de panique, lorsqu'on se rend compte de l'impasse spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Vous savez, le péché est un maître bien plus dur, plus puissant que Pharaon. Et quand on apprend à paniquer face à ce maître-là, et de se rendre compte qu'il n'y a pas d'issue, de pouvoir dire « je suis incapable ». Tout le monde connaît l'association alcoolique anonyme, ces programmes de rétablissement pour aider des gens dépendants de l'alcool. Et ce programme fonctionne avec 12 étapes et beaucoup d'autres programmes ont repris les mêmes méthodes, les mêmes 12 étapes. Et l'association n'est pas ouvertement chrétienne, mais à la base, ça a été conçu en pensant à la Bible. Et dans les 12 étapes, tout le monde doit passer, si vous passez par là, tout le monde doit passer par ces mêmes 12 étapes. Et la première étape, il faut que tout le monde le dise, l'avoue. Première étape, nous avons admis que nous étions impuissants, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Voilà, vous n'allez pas plus loin si vous ne passez pas cette étape-là. Nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre à la raison. Troisième étape, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu, tel que nous le concevons. Bon, c'est ouvert à tous. Mais à la base, la réflexion vient de la Bible. La première étape, la première chose à apprendre à faire, c'est paniquer, c'est perdre ses moyens, c'est se rendre compte que nous sommes incapables, nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Alors bien sûr, tout ça, c'est très différent du message du monde. Quand vous êtes dans une impasse, quand vous êtes en difficulté, on va vous dire, croyez en vous-même, cherchez en vous, vous allez trouver qu'il y a une force intérieure, pensez à tout ça et vous allez voir, vous allez vous en sortir. Cherchez en vous-même. Mais est-ce que vous aurez conseillé au peuple d'Israël à ce moment-là, cherchez en vous-même, vous êtes fort en vous-même, ça va bien se passer? Non, c'est parce que ce n'était pas du bon conseil à ce moment-là. Le bon conseil à ce moment-là, c'est de dire, c'est le moment de paniquer, c'est le moment de crier à l'Éternel. Il y a la mer et il y a Pharaon, et la force ne va pas venir de nous-mêmes. Ça, c'est la bonne panique. Il faut apprendre à paniquer. Bien sûr, il y a la mauvaise panique. Et ça, ils auraient s'arrêté au verset 10. Ça aurait été bien de crier à l'Éternel. Mais versets 11 et 12, là, c'est la mauvaise panique que nous manifestons souvent aussi. La mauvaise panique, c'est de dire à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que n'as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Alors ça, c'est la mauvaise panique. Le signe que la mauvaise panique nous a pris, c'est quand on commence à dire des bêtises. Nous étions mieux en Égypte. Vous lisez les premiers chapitres, c'était pas ce qu'il disait, c'était pas le cas. Laisse-nous servir, n'est-ce pas ce que nous te disions, laisse-nous servir les Égyptiens. C'est très intéressant parce que là, ils reprennent le vocabulaire de Pharaon lui-même en verset 5, où Pharaon dit à ses serviteurs, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? C'est une manière un peu gentille de parler de l'État d'Israël. Ouais, c'était des services sympathiques qu'ils nous rendaient. Et eux, ils commencent à adopter le vocabulaire de l'ennemi en disant, oui, le service. Bon, ça, c'est la mauvaise panique. Ce n'était pas des services, c'était un esclavage terrible et dur. La mauvaise panique, c'est de commencer à blâmer tout le monde autour de soi, blâmer Dieu, blâmer les autres, blâmer les dirigeants, comme ils ont fait ici. Et ça, c'est la mauvaise panique. La bonne panique regarde en haut, la mauvaise panique regarde en bas, les sépulcres, c'est tout ce que nous voyons, on va autant creuser des sépulcres. Ça, c'est la mauvaise panique. C'est quand même pas fini cette histoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à paniquer, à se désespérer, à perdre nos moyens humains et charnels. Ensuite, il faut apprendre à ne rien faire. Versets 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Qu'est-ce que le peuple avait surtout besoin d'apprendre ce jour-là, ce moment-là? Ils avaient besoin d'apprendre à ne rien faire, à rester en place, à ne pas s'agiter, à ne pas s'activer, à ne pas courir partout paniquer. C'est ce que Moïse leur dit, restez en place, gardez le silence, ne bougez pas, l'Éternel combattra pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder la délivrance que l'Éternel va vous opérer. Pensez-y, de quelle manière le peuple a-t-il contribué à la victoire, à la délivrance ce jour-là? De quelle manière ont-ils contribué? Aucune, rien. Moïse leur a pas dit, bon, mettez-vous au moins à creuser un tunnel, peut-être ça va se faire, ou au moins commencer à construire des radeaux, on va essayer de flotter tout ce monde. S'ils auraient fait ça, c'était temps perdu, ça n'aurait pas marché. Donc, leur contribution à cette délivrance était zéro. Et là, on arrive un peu au cœur du message de la Bible, apprendre à ne rien faire. Toutes les religions disent qu'il faut apprendre à faire. Apprendre à faire pour la délivrance, pour sortir de l'impasse. Apprendre à faire des bonnes œuvres, à faire un tas de choses. L'évangile ne dit pas ça. L'évangile, d'abord, il faut apprendre à rien faire, simplement regarder à Dieu qui a tout fait. On pourrait penser que c'est facile d'apprendre à rien faire, mais c'est l'étape la plus difficile pour nous. C'est la raison principale que les gens ne veulent pas de l'évangile, parce que ça leur dit de ne rien faire. Il y a cette Bible d'enfant que j'aime, la Bible te raconte de Jésus, que je lis à mes enfants, et mes filles, ils aiment particulièrement bien l'histoire de Naaman, puisque dans l'histoire de Naaman, il y a une petite fille servante de Naaman, ce général. Mais ce Naaman, lui aussi, dans une impasse, lui aussi, il a besoin d'une délivrance, parce qu'il est malade, il a cette maladie. Et dans la manière que c'est raconté dans cette histoire, que j'aime bien, on arrive à un moment où Naaman est dans cette impasse, et il essaie de faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de l'impasse, guérir? Voilà, je vous lis. Tout ce dont Naaman avait besoin, c'était de point rien, et c'était la seule chose qu'il n'avait pas. J'aime bien cette manière de tourner. Et tout ce dont avait besoin Naaman, c'était rien, et c'était la seule chose qu'il n'avait pas. Il avait une position haut placée, il avait l'argent, il avait l'importance, il avait la réussite, mais ce qu'il n'avait pas, c'était ce rien qu'il fallait offrir à Dieu. C'est peut-être la seule chose que vous n'avez pas encore. Vous avez plein de choses. En Occident, nous avons plein de choses, mais c'est peut-être la seule chose que nous n'avons pas, que nous avons besoin d'apprendre à offrir à Dieu ce rien. Et finalement, c'est ça que Dieu veut, notre rien, notre silence, notre immobilité, notre inactivité, simplement notre regard quand lui, il combat pour nous. Et c'est là où le verset 13 est quand même très beau. Quand vous pensez toute la Bible, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Le mot hébreu pour délivrance, c'est « Yeshua ». Regardez le Yeshua que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Yeshua, c'est aussi un prénom, c'est Jésus en français. Yeshua, Jésus. Regardez le Yeshua, regardez le Jésus que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est ça la délivrance, c'est ça le salut. Et c'est pour ça que Jésus, il est allé combattre pour nous. Il a dit, à la fin de son œuvre à la croix, il a dit, tout est accompli, tout est fait, j'ai combattu pour vous, vous, regardez, c'est tout. Donc, maintenant, je vous pose vous la question, qu'est-ce que vous avez contribué à votre salut, à votre délivrance? Soyons honnêtes au plus profond de notre cœur. Qu'est-ce que nous avons fait cette semaine pour que Dieu nous aide, nous aime, nous bénisse? Avouons que notre cœur est réticent à dire rien. Quand on nous critique tout de suite, c'est quand même, j'ai fait ça, je suis comme ça. Notre cœur est réticent à avouer que nous n'avons rien contribué à notre salut, à cette sortie d'impasse que Dieu veut nous offrir. Et pourtant, c'est la vérité, nous avons besoin d'apprendre à ne rien faire, simplement regarder. Mais ensuite, il faut apprendre à marcher. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent ?» Le moment est venu pour eux de prendre le pas de la foi, de marcher par la foi. Et je trouve que c'est beau parce que là, c'est un pas littéral, un pas de foi. Et un moment où la plage s'arrête et les murailles commencent. Et il faut franchir ce seuil, faire ce pas où on engage le chemin entre les murailles des eaux. Alors on peut imaginer toutes sortes de questionnements qu'ils ont pu avoir en prenant ce pas de foi. Est-ce que les murailles vont tenir? Est-ce que les Égyptiens vont nous suivre? Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va marcher? Je me dis que quand Moïse a fendu la mer, que le chemin est apparu, et qu'il a dit « on y va, on avance », certains ont dû trouver ça chouette. Ils ont marché, ils ont couru avec joie. Je vois bien certains de nos enfants, voilà, et quand ils font l'exode chaque dimanche matin vers leurs heures, voilà, le chemin s'ouvre. Alors, imaginons ces mêmes enfants-là, ce jour-là, le chemin s'ouvre. Ah, chouette, je cours, je fonce, c'est sympathique. Ok, ça c'est la foi d'un enfant. J'imagine d'autres paniqués, pleins d'interrogations, pleins de doutes, pleins d'incompréhension. Mais comment ça se tient, comment ça marche, tout ça, je vais m'engager là-dedans. Plein d'incompréhension, mais peu importe, entre ceux qui ont trouvé ça chouette et ceux qui ont trouvé ça dangereux ou bizarre, à un moment, chacun a fait ce pas de foi d'engager le chemin et d'y marcher. Il faut apprendre à marcher par la foi. Maintenant, peut-être l'image peut vous aider un peu. Pensez à vraiment ce qui s'est passé lors de ce passage de la mer Rouge. Qu'est-ce qui est passé? J'aime bien l'image parce que ça capte bien la hauteur des murailles d'eau. Hein. Ce n'était pas juste un pataugeoir, c'était la mer. Alors, ça fait que les Hébreux, ils sont entrés dans ce chemin, dans l'eau. Ils sont passés par les eaux de la mer et au lieu de se noyer, ils sont sortis de l'autre côté et ce qui les attendait, c'était une nouvelle vie. Ils sont entrés dans les eaux, en quelque sorte, sans être touchés, sans se noyer, ils sont sortis pour une nouvelle vie. Et ces eaux, c'était des eaux de jugement, c'était des eaux mortelles. Pharaon et ses armées vont bien connaître ça. Donc, ils sont entrés dans des eaux de jugement, des eaux mortelles. Ces eaux ne les ont pas touchés et sont sortis de l'autre côté vivants. Nouvelle vie. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Eh bien, l'apôtre Paul, bien sûr, il parle de ce moment comme un baptême. Il dit, les enfants d'Israël, ils étaient baptisés en Moïse, baptisés dans la mer Rouge. Et tout comme nos baptêmes, le baptême du croyant est une illustration de ce pas de la foi, cette marche par la foi, c'est la fin de notre ancienne vie d'esclavage et puis la nouvelle vie en Christ en route pour le ciel, en passant par les eaux mortelles du jugement de Dieu sans y être touché. Donc, et le baptême, donc c'est même le baptême que l'on fait ici, c'est une image de notre exode personnel, spirituel, du péché, de notre ancienne vie, où on ressort pour marcher en nouveauté de vie après. Un jour, vous savez, un jour, Moïse et Jésus ont discuté ensemble. Ils n'ont pas vécu aux mêmes époques, mais un jour, ils ont pu discuter ensemble avec Élie. Parce qu'un jour, Jésus, sur le mont de la transfiguration, il s'est retrouvé avec Moïse et Élie, et petite discussion fraternelle ensemble, et vous pouvez même regarder ça, Luc chapitre 9, verset 30. Luc 9, 30. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, Jésus, c'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc ils ont discuté ensemble. De quoi ils ont discuté? De son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. En grec, le mot départ, c'est exodus, exode. Ils ont discuté ensemble de l'exode que Jésus allait faire à Jérusalem. Quel était ce départ, cet exode que Jésus a fait à Jérusalem? Eh bien, c'était le départ de ce monde, en passant par les eaux de jugement. Mais vous savez qu'au moment où Jésus a fait son exode, au moment où il était encerclé par les méchants, il était devant l'impasse de l'ennemi, au moment de son exode, lui, il a été noyé dans le jugement de Dieu, dans la colère de Dieu. Parce qu'à ce moment, il portait nos péchés, et nos péchés ont été engloutis, ont été ensevelés avec lui, tout comme les armées de Pharaon, nos péchés. Et donc, lui, il s'est noyé dans le jugement, la colère de Dieu, pour que nous puissions sortir vivants, pour nous ouvrir ce chemin vers la vie. Et donc, apprendre à marcher, c'est apprendre à faire ce pas de la foi en Christ, entrer en Christ, entrer dans ce chemin qui nous permet de traverser les eaux mortelles du jugement de Dieu et sortir vivant. Parce que les eaux s'enferment pas sur nous, mais sur Jésus-Christ. Et puis, nous apprenons que toute la vie chrétienne, c'est apprendre à marcher de cette même manière et se rappeler de ce baptême de Jésus. Jésus a parlé de sa mort aussi comme un baptême où il était baptisé dans la colère de Dieu. Toute la vie chrétienne, c'est de se rappeler de ça. Peut-être je peux vous aider à le comprendre. Imaginons un enfant hébreu dans le groupe là qui vit tout ça, qui passe à travers la mer. Imaginons cet enfant un, deux jours plus tard, pendant la nuit. Il se réveille en sursaut, un cauchemar, et sa mère court auprès de lui, et l'enfant est tout troublé, mais Pharaon, il est là, il va m'attraper, les méchants, ils arrivent. On peut comprendre un enfant qui a ses souvenirs. Qu'est-ce que sa mère va lui dire à ce moment-là? Sa mère va lui dire, mais non, mon enfant, n'aie pas peur, les soldats sont morts. Les soldats sont morts, ils sont au fond de la mer. Ils ne peuvent pas t'attraper, ils ne peuvent plus t'attraper parce qu'ils sont morts. Eh bien, c'est exactement le raisonnement que l'apôtre Paul nous donne, nous les enfants de Dieu, en Romains 6 et ailleurs, mais en Romains 6 notamment, il dit, vos péchés ont été mis à mort, plongés au fond de la mer, de la colère de Dieu, ils ne peuvent plus t'embêter, ils ne peuvent plus nous attraper, ils ont perdu leur force. Et quand on a des angoisses, des peurs, des impasses, des difficultés dans la vie, comme cette mère qui console son enfant en disant « mais c'est bon, c'est réglé, et les soldats, les méchants soldats ne peuvent plus t'embêter », c'est ce que l'Évangile nous dit, nos péchés ne peuvent plus nous embêter, ils ont perdu leur force, leur puissance, parfois le souvenir, la tentation, les cauchemars, en quelque sorte, sont là. Mais le conseil de Paul, le conseil très, très fort, c'est de Dieu penser à ce baptême-là, que vos péchés ont été ensevelis, enterrés, et ils ne sont plus là. Donc nous avons besoin d'apprendre à paniquer de notre impuissance, notre incapacité de faire quoi que ce soit. Ensuite, apprendre à rien faire, simplement regarder ce que Christ a fait pour nous. Ensuite, apprendre à marcher, c'est-à-dire faire ce pas de la foi. Peut-être on n'a pas tout compris, peut-être certaines choses nous font peur, mais on sait que la seule délivrance, c'est par là, apprendre à marcher. Et enfin, apprendre à chanter, danser. Nous n'avons pas lu, mais le chapitre suivant, tout le chapitre 15, c'est un cantique. Exode chapitre 15, c'est un cantique qui a été inspiré par les événements du chapitre 14. Verset 1, je vous lis juste verset 1. « Et Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, ils dirent, et c'était le verset affiché tout à l'heure, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Et puis il y a un groupe de femmes, notamment verset 20, avec Marie, la sœur de Moïse et Aaron, qui sortent en dansant. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Donc là, c'était le moment de chanter et de danser et de se réjouir ici. Après tout ça, c'est la fête, c'est la célébration, c'est la joie. Je pense qu'on pourrait dire que la délivrance est incomplète si elle n'est pas accompagnée par cette joie, cette louange, cette reconnaissance. Parce que rappelez-vous de tout ça, le but c'était de faire éclater la gloire de Dieu. Dieu aurait pu se prendre autrement, de manière un peu plus simple, discret. Ne pas endurcir le cœur de Pharaon et qu'il ne bouge plus. Ou bien passer par un autre chemin, ou cacher son peuple dans le désert. Mais il s'est pris de cette manière dramatique, avec impasse, avec les eaux qui s'ouvrent, avec les eaux qui se referment. Il s'est pris de cette manière pour faire éclater sa gloire. Et ce dont on se rend compte, c'est que dans un seul événement, Dieu a réussi à montrer simultanément sa puissance, sa colère, sa justice, son amour, sa fidélité et sa grâce dans un seul événement, c'est-à-dire par le même geste, les eaux qui s'ouvrent et qui se ferment, il montre à la fois sa puissance, sa colère contre les méchants, sa grâce contre ses enfants, sa fidélité à ses promesses, toutes ces choses dans un seul moment, il arrive à les faire éclater. Et de la même manière, à la croix, un seul événement, Dieu a montré tout l'éventail de sa gloire, son amour, sa puissance, sa colère, sa justice, tout ça se réunit à la croix. Et quand nous avons compris ça, quand nous avons vu, quand nous regardons la délivrance, regardez le Yeshua de l'Éternel, là, c'est le cœur chante, le cœur danse de cette nouvelle vie, de cette liberté acquise pour nous. Vous savez que vous avez vécu la délivrance de Dieu lorsque votre cœur chante, lorsque votre cœur danse, lorsque votre cœur ne peut que déborder de reconnaissance envers Dieu. Si les petites choses de la vie vous tracassent encore, dramatisent comme ces Israélites, on aurait dû mourir en Égypte, quelque part, il vous manque quelque chose, vous n'avez pas saisi la grandeur de la délivrance. Parce que justement, ce peuple, et je termine avec cette pensée, ce qui est triste, c'est que 3 jours après, ce serait le message suivant, mais 3 jours après, le peuple retombe dans les murmures, la mauvaise panique, les accusations. 3 jours après, plus de chants, plus de danse, voilà, maintenant on n'a plus de pain, on n'a plus d'eau, c'est la fin du monde. Mais non, ça ne peut pas être la fin du monde après une telle délivrance. Et pour nous, c'est la vérité à garder. Une fois que Dieu délivre de l'impasse la plus totale, l'impasse de la mort, où nous sommes coincés entre le passé qui nous rattrape avec nos péchés et puis la mort qui nous attend, c'est l'impasse la plus totale. Une fois que Dieu nous délivre de cette impasse-là, nous aurons toujours, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les tracas, nous aurions toujours une raison à chanter, une raison à danser. Même dans nos difficultés, nous avons été délivrés parfaitement par Dieu en regardant son salut, son Fils Jésus-Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons dans la prière.